Alors, on est heureux de continuer ce cycle d'anthropologie aujourd'hui. Donc, après avoir traité le temps, la dernière fois, nous traitons aujourd'hui de l'espace, du rapport des cultures et de la culture. Alors, pour cela, nous avons deux intervenants de renommée internationale qui nous viennent tous deux, d'une certaine manière, de l'Asie. Donc, on est vraiment de plein pied avec l'actualité. Armel Hirschauer, qui est membre de l'Institut séculier Notre-Dame de Vie, qui a vécu 17 ans au Japon, et qui est de formation philosophe, travaille maintenant ici à Notre-Dame de Vie, qui enseigne au studium, et puis qui s'occupe d'une maison d'accueil de jeunes à Notre-Dame de Vie. Et puis nous accueillons aussi le professeur Eddy Calasanz, qui est philippin, qui est le responsable général de la branche masculine des Fils de Notre-Dame de Vie, et qui est aussi professeur de philosophie à l'Athénéo de Manille, l'université Athénéo à Manille. Voilà. Merci Eddy d'être venu de si loin pour nous parler aujourd'hui. Mais heureusement, nous allons vous garder quelques temps encore parmi nous. Eh bien, écoutez, bonne journée, bonne rencontre.
Alors la dernière fois, nous nous sommes penchés sur l'importance et la richesse du temps, une dimension essentielle de notre histoire et de notre croissance personnelle. Mais la primauté du temps ne doit pas nous conduire à oublier l'espace. Dans les documents que vous avez reçus, la feuille A4 vous présente le plan de la matinée avec les citations que je vais utiliser. Et puis le livret, c'est Eddy qui vous expliquera comment le lire, sous quel aspect le goûter. Alors voilà, l'espace, la culture, les cultures. Donc le premier mouvement de la matinée, ça va être un moment de définition qui m'est confié. Et le deuxième mouvement, problématisé avec Eddy, qui va nous faire réfléchir sur ces thèmes très beaux. Donc, dans la partie des définitions, nous allons nous pencher d'abord sur l'espace comme expression de la culture. Donc, vous avez le plan sur vos feuilles. Le premier élément qui saute aux yeux est que nous vivons sur une jolie planète bleue, aussi belle à regarder le jour que la nuit. Ça, c'est la vue du pôle Nord, l'Europe, et puis l'Australie. Quand on pense espace, il y a bien sûr la question très actuelle de l'environnement. D'ailleurs, dans cette question de l'environnement, on constate que la question du temps est très importante, puisque c'est une question aussi de jours et d'années, quand on pense au problème du climat. L'espace, comme essentiel à la vie humaine, est d'abord indispensable au partage. En effet, pour être plusieurs à discuter simultanément, ou pour écouter, il faut un espace. On a beau dire « je donne mon temps », en fait, personne ne peut vivre ma journée à ma place. Alors que je peux loger quelqu'un dans la chambre d'amis, ou qu'un village, une ville peut ouvrir un gymnase pour accueillir les plus pauvres. Un exemple, le père Pedro à Madagascar a transformé une décharge où vivaient des familles entières en un village où dans chaque maison vit une famille. Donc ce sont de véritables foyers. Lui, il a bien compris que l'espace familial était un plus et absolument nécessaire à la vie de ces pauvres. Et donc la pauvreté est souvent un manque d'espace, et servir le pauvre suppose aussi de lui concéder de l'espace, un espace où il est réellement chez lui. L'espace est aussi indispensable à la contemplation. Mesdames, messieurs, qu'avez-vous sous le nez? Un détail microscopique d'un tableau de Monet. Qu'est-ce? C'est bien difficile de le dire. Ce sont des personnes dans la rue pour un défilé du 14 juillet. La contemplation demande un minimum d'espace. Cela est vrai aussi dans notre rapport au monde. Toutes les images aériennes et satellites nous ont permis de mieux découvrir la beauté de notre planète et aussi sa fragilité. Cela aussi est vrai dans notre rapport à l'autre. Il faut, dans tous les sens de l'expression, la distance à autrui pour le contempler dans sa beauté. On dit aussi L'espace est un lieu de dialogue, un lieu de rencontre. Alors, il est facile de faire le lien avec la paix. L'espace est essentiel à la paix. Il est impossible de vivre en paix étant assis ou entassés les uns sur les autres. Voyez le stress lié au transport en commun, que ce soit à Pékin ou à Tokyo, accrochez-vous, ce n'est pas drôle. Pour vivre en paix, il faut que chacun ait un minimum d'espace pour respirer. Beaucoup de problèmes de géopolitique pourraient se résoudre si les peuples apprenaient à se partager l'espace. L'espace est indispensable pour respecter l'autre dans sa liberté, lui laisser la possibilité de s'en aller ou de s'approcher. Nous le voyons ainsi dans le texte de la Genèse, où l'homme s'émerveille de découvrir la femme que lui présente le Créateur. L'espace, maintenant, voyons qu'est-ce que l'espace exprime de la culture. On pourrait s'amuser en disant « Dis-moi où tu vis, je te dirai comment tu vis et qui tu es. » Alors d'abord, pour nous amuser un peu, c'est pas seulement l'homme, mais ce sont tous les êtres vivants qui sont liés à un espace. C'est la tanière de qui ? De Madame la Marmotte. Et puis, les castors, ils sont bien connus pour s'installer et faire des constructions. Non seulement le vivant façonne l'espace où il habite et passe sa vie, y compris chez les animaux, mais aussi l'espace nous façonne et même déteint sur nous. Monsieur le caméléon. Mais nous allons voir que chez les hommes, c'est un peu pareil. Nous sommes à Hokkaido, dans l'île la plus au nord du Japon. Vous voyez qu'il y a une porte, mais qu'il n'y a pas d'escalier. À quoi cela peut-il bien servir ? Et voilà, quand il y a de la neige, eh bien, ça sert de porte d'entrée. Un autre exemple, nous avons au studium un étudiant de la République de Kiribati. Pas besoin de s'isoler tellement, puisqu'il fait toujours beau. Ou des toits de chaume. Un autre exemple, toutes les constructions, toutes les habitations troglodytes. Voilà. Donc l'homme s'est adapté à la géographie et a aussi adapté la géographie à son besoin d'habitation. Ici aussi en temps de guerre contre les Mongols. Pour approfondir la réflexion sur notre rapport culturel à l'espace, voyons deux styles de jardin. L'un typiquement français, l'autre japonais. Chacun d'eux vont nous dire quelque chose de l'homme et de son rapport au monde, de sa conception du monde. Deux espaces, deux cultures. Regardons d'abord le jardin à la française, ou dit classique. Il est né de la recherche formelle, d'une perfection formelle, d'une majesté théâtrale et d'un goût pour le spectacle. Et vous le devinez, le jardin classique culmine au XVIIe siècle avec Louis XIV et la construction du château de Versailles et de son parc. Au passage, le parc de Versailles est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. La recherche de la théâtralité s'exprime par la surprise. Vous vous promenez et puis au détour d'un bosquet, vous découvrez un petit espace avec un très joli jet d'eau. Le goût pour le spectaculaire, en particulier avec les fontaines, les jets d'eau, culmine avec les grandes eaux, où tous les bassins du parc projettent en hauteur des milliers de tonnes d'eau. Et c'est très beau. L'aspect mythologique ou symbolique se concentre en particulier dans les statues, en lien avec les dieux de l'Antiquité. Ici, vous avez Neptune sur son char, en pleine activité. Le jardin classique, le jardin français, ne change pas tout au long de l'année. Il est à peu près toujours avec les mêmes couleurs. Il ordonne la nature selon quelques principes. Vous le voyez, ici, c'est la géométrie, la symétrie et bien sûr la perspective. Il désire faire triompher l'ordre sur le désordre de la nature, le réfléchi sur le spontané. On pourrait dire que c'est l'art de corriger la nature pour y imposer une certaine rigueur entre autres par la symétrie. Le jardin à la française n'est pas une imitation de la nature, mais plutôt celle d'un bâtiment, un bâtiment que l'on habite. En effet, il est dessiné comme un édifice. Il est caractérisé par une succession de pièces, et c'est le terme dont on appelle les différentes parties du jardin, traversées par le visiteur. Il passe d'un vestibule à la salle des marronniers, par exemple, à la salle de bal. Voilà. Donc c'est vraiment tout un vocabulaire qui indique que nous sommes comme dans une maison. On se déplace aussi entre des murs de charmilles, voilà, et les pelouses sont comparées à des tapis. Voilà pour le jardin à la française. Maintenant, faisons un petit voyage au Japon avec le jardin japonais. Je suis un peu nostalgique, vous pardonnerez. On retrouve les mêmes éléments. Les arbres, les fleurs, les plantes, l'eau, les rochers. Mais eux, ils symbolisent vraiment la nature et son aspect un peu spontané. Qui dit reproduction de la nature dit absence d'angle. Avez-vous vu déjà des feuilles rectangulaires ou des fleurs carrées ? Non. L'esthétique du jardin japonais est dans les formes sinueuses et les courbes. Il ne s'agit pas de confectionner une copie conforme d'un paysage, mais d'en créer un idéal en miniature. Parce que vous savez que le Japon n'a pas beaucoup d'espace. Donc c'est toujours dans un espace délimité et limité, et qui permet à celui qui y entre de contempler, de méditer. Ce jardin n'est pas fait pour la promenade, mais d'abord pour la contemplation. Allons-y voir. L'un des charmes du jardin japonais est qu'il change selon l'heure et la saison. Le choix des arbres et des fleurs en dépend. Ils sont choisis en fonction des couleurs et en fonction de la floraison tout au long des mois. Le choix des végétaux est aussi symbolique. Ici, vous avez un pin qui est symbole de longévité. Et pour bien le protéger contre le poids de la neige, vous avez tout ce système de cordage en fait, qui soutiennent les branches pour qu'elles ne se cassent pas à cause du poids de la neige. Quelques caractéristiques du jardin japonais. Ici, vous avez un jardin sec, donc surtout avec des graviers, du sable et des rochers. Un principe, c'est la miniaturisation, pour représenter dans un espace réduit à la fois la montagne, les collines, une rivière sur laquelle passe un pont, et puis la terre. Et le fait de réduire ce cosmos en un microcosme, eh bien, permet une simplification remarquable. Un autre exemple, ici c'est le symbole d'une montagne sacrée en Chine, là d'autres montagnes, et quelquefois les autres rochers dans les vagues de gravier représentent des animaux, par exemple une tortue. En un clin d'œil, vous avez tout le cosmos à contempler. Un autre aspect, c'est la dissimulation. Vous ne voyez pas tout d'un seul coup d'œil. Ce n'est pas comme à Versailles où vous avez des grandes étendues à contempler. C'est toujours avec une clôture, mais qui est astucieusement mise, disons, dans l'ambiance, en utilisant des éléments naturels. En effet, les jardins japonais sont toujours clos. Mais pour éviter de se sentir enfermé et limité, une astuce supplémentaire, c'est d'utiliser à la fois les bâtiments, mais aussi les montagnes qui sont autour, pour les inclure dans le paysage. Donc ici, en fait, tout le jardin est fait en tenant compte de la colline qui est derrière. Donc vous comprenez bien qu'il y a une maîtrise de la nature comme dans le jardin à la française. Cependant, quelque chose de bien différent est à souligner. Et pour cela, je vais prendre l'exemple du bonsaï. Le bonsaï, donc cet arbre en miniature, manifeste une maîtrise radicale de la croissance de l'arbre. Presque une torture, disent certains. Mais lorsque je façonne cette forme miniature, je fais avec l'arbre, je ne le change pas. Le peuple japonais a un rapport à la nature qu'un étranger peut percevoir comme une sorte de défaitisme. Il n'y a rien à faire, il faut tenir compte de la nature. En effet, il faut tenir compte des volcans et de la violence des séismes, des tsunamis, des typhons, comme aux Philippines. Et là, je vous ai mis, donc c'est le Sakurajima, et la ville de Kagoshima au premier plan. Et tous les matins, regardez le trottoir, il est plein de cendres. Première activité d'une maîtresse de maison, c'est de balayer son pas de porte et de mettre cela dans des petits sacs jaunes. Voilà. Donc faire avec la nature, puisque la nature, elle impose une loi. Mais le jardin japonais a cette habileté de le faire entrer dans le paysage. Et voilà, vous avez le Sakurajima dans un très joli jardin dans la banlieue de Kagoshima. Que ce soit un élément naturel comme une montagne ou un volcan, mais aussi, pourquoi pas, un gratte-ciel. Et ici, nous sommes à Tokyo. Rentrons à nouveau dans le jardin. Souvent, au gré d'une petite promenade, en général, c'est vraiment petit, hein, vos pas vous mènent quelque part. Vous avez même un chemin suivi pour ne pas salir votre kimono, pour ne pas mettre les pieds dans l'eau. Vous découvrez une maison de thé. La maison de thé, c'est le symbole de l'humilité, de la petitesse, c'est vraiment tout petit. Et aussi, dans la vaisselle qu'on utilise, c'est un hymne à l'asymétrie, à l'originalité, à l'unicité. Il n'y a pas un bol, il n'y a pas deux bols qui se ressemblent. Tout est particulier. Et vous voyez, ils sont tous un peu de guingois, ils ont été façonnés à la main. Le jardin de thé, qui mène nos pas jusqu'à la petite maison, permet une transition entre le monde extérieur de la ville, bruyant et agité, jusqu'à ce lieu de méditation et de calme, de tranquillité. Bref, dans un jardin japonais, on y fait beaucoup de choses. On s'y promène, on y étudie, on y peint aussi, quelquefois, on y boit du thé. C'est un lieu béni qui réalise une synthèse de la tradition spirituelle de la culture japonaise. Dans un jardin japonais, pour peu que vous vous laissiez conduire et imprégner par l'ambiance, vous pouvez faire une nouvelle expérience du rapport entre l'homme et l'univers. L'étranger que je suis peut entrer dans une nouvelle façon de voir le monde. Ce qui est important ici, ce n'est pas la manifestation de la maîtrise humaine des éléments naturels, mais c'est la participation de chaque élément, dont l'homme, à l'harmonie de la nature. L'homme n'est pas perçu comme une espèce dominante qui doit apprivoiser son environnement et le maîtriser, mais comme l'une des pièces d'un gigantesque puzzle. Seule une profonde harmonie peut garantir le fragile équilibre vital du monde, à commencer par celui de ce petit espace. Fin de notre promenade. L'espace est vraiment une manifestation de la culture et aussi un soutien de notre humanité. Ces deux styles de jardins sont faciles à qualifier puisqu'ils appartiennent au passé, qu'ils ont des règles, disons, très définies. Pour définir notre espace contemporain, c'est plus difficile puisqu'il est en plein changement et que nous sommes plongés dedans. Nous allons maintenant nous interroger sur l'espace de vie aujourd'hui. Nous sommes à Tokyo et vous avez devant vous la deuxième tour la plus haute du monde, Sky Tree, avec une magnifique vue sur le mont Fuji. De là-haut, que voyez-vous ? La ville, l'agglomération à l'infini. C'est un peu stressant, en même temps très beau, mais c'est que des habitations. Et si vous faites un zoom, des habitations impersonnelles, hein, des HLM, des maisons à l'infini. Autre aspect de notre planète, c'est la pollution des terres et des mers. Et puis, c'est aussi le voyage, les déplacements à l'infini. Petite publicité pour une application que vous pouvez télécharger sur votre portable qui vous indique tous les avions en train de voler dans le ciel à l'instant que vous choisissez, à l'instant présent. Tous ces déplacements, il faut y joindre aussi le problème de l'immigration. Est-ce bien un espace humain ? Quel rapport avons-nous aujourd'hui à l'espace ? C'est-à-dire plus profondément, finalement, au réel qui nous entoure. Notre époque semble souffrir de deux maux, le mouvement et la vitesse. On veut avaler les distances et abolir le temps. La dernière fois, nous avons parcouru, en particulier avec Hartmut Rosa, une analyse de la vitesse. Aujourd'hui, c'est tout spécialement le mouvement que nous allons essayer d'analyser en mettant nos pas avec un philosophe. Donc c'est la deuxième partie des définitions. Ce philosophe s'appelle François-Xavier Bellamy. Il a écrit donc ce livre qui s'appelle « Demeure ». Et c'est sur ce livre que je vais appuyer mon analyse. Pour lui, la modernité se caractérise non par le règne de la raison critique contre la tradition, mais davantage par l'idéologie du changement. L'une des réalités essentielles de la pensée contemporaine est l'impératif d'innovation, de renouvellement, de transformation qui nous impose d'être en permanence en marche, sans qu'il nous soit permis de nous interroger sur la direction visée, sans qu'on ait pris la précaution de définir au préalable ce qui mérite d'être sauvegardé. Cette course effrénée qui caractérise notre époque plonge ses racines, et nous allons maintenant nous focaliser sur l'idéologie du mouvement à l'œuvre partout. Donc cette idéologie du mouvement, elle remonte à l'Antiquité, avec différents philosophes grecs, Héraclite, qui se veut le défenseur du mouvement, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, Parménide, qui prend le contre-pied d'Héraclite, Platon, qui continue cette réflexion sur le mouvement, et puis je fais un saut jusqu'à Machiavel, un penseur sur lequel on va revenir quelques instants, et puis tous ces grands astronomes et philosophes qui ont introduit le fait que la Terre n'est plus le centre du monde, mais qu'une petite planète au milieu de l'univers. Tous ces hommes, et en particulier les trois derniers, établissent l'universelle mobilité de tous les corps célestes et font de nous des errants au cœur d'un univers où plus rien n'est stable. Cette nouvelle conception du monde a influencé énormément de domaines et en fait notre vie quotidienne. D'abord, une étape, c'était l'héliocentrisme que j'ai oublié de vous présenter. Première étape avec Machiavel. En effet, jusqu'à lui, on a surtout cherché à analyser et à présenter la cité idéale, en particulier avec Platon. Mais pour Machiavel, la politique n'est jamais le lieu d'une recherche théorique d'un idéal, elle est la confrontation avec un monde marqué par le changement perpétuel, imprévisible et brutal. Par conséquent, il n'y a de vertu politique que dans le fait de s'ajuster à chaque fois, à chaque nouveau mouvement, s'adapter à chaque instant. Rien n'est jamais bon ni mauvais dans l'absolu. Tout est affaire de circonstances. Le bien ne se trouve plus dans un idéal abstrait, mais dans l'ajustement au flux, à l'instant. Et voilà ce qu'affirme Machiavel dans son œuvre « Le Prince ». Je crois qu'est heureux celui qui adapte sa manière d'agir aux particularités de son époque et pareillement, et malheureux celui dont la manière d'agir est en désaccord avec l'époque. Le prince de Machiavel cherchait à changer de caractère selon le temps et les circonstances avec lucidité et pertinence. Aujourd'hui, nos convictions de citoyens et nos engagements politiques, sous l'exigence du moment, nous entraîne dans ce mouvement, mais pas forcément d'une façon tout à fait consciente. Cette passion du mouvement entraîne le relativisme, le progressisme, c'est-à-dire la certitude que l'histoire est par définition l'occasion d'un progrès, que ce qui va arriver est forcément meilleur que ce qui est déjà présent. on en vient à considérer le mouvement comme une fin et à renoncer à l'idée même d'un objectif qui lui tiendrait lieu d'un achèvement. Et voilà une page du livre Demeure qui synthétise un peu la situation. Être plus rapide, changer, c'est la première citation de votre polycopier. S'adapter, innover, toujours plus et toujours plus vite. Le but du changement est moins important que le fait de se transformer. La destination importe moins que le fait même de voyager. Vivre suppose de bouger. La nouveauté est un bien en soi. Ce qui compte, c'est d'être disruptif, c'est-à-dire en changement profond, en rupture. Qu'importe l'objet de la rupture ? Être en mouvement est la vertu du moment. Être dynamique, littéralement. Être mobile, souple, flexible. C'est comme si la modernité se caractérisait par une immense colère contre ce qui ne se met pas à son rythme. Malheur à celui qui n'est pas assez mobile, pas assez souple et adaptable pour se couler dans le flux. Il constitue une objection vivante à ce monde nouveau, à ce monde du nouveau, qui ne lui pardonnera pas de rester comme un fossile encombrant au milieu de l'innovation triomphante. Quelles sont les conséquences de cette idéologie du mouvement ? Le rapport de chacun au mouvement entraîne une rupture entre deux groupes de personnes. Si vous n'êtes pas capable de suivre le mouvement, vous appartenez à un groupe baptisé les « somewhere », les gens de quelque part, précisément. En opposition aux « anywhere ». Les « anywhere », les gens de n'importe où, souvent diplômés, sont issus des classes sociales aisées, urbaines. Ils sont citoyens du monde et sont à l'aise dans n'importe quelle grande ville sur la planète. De l'autre côté, il y a les somewhere, les gens de quelque part, moins aisés, moins formés, habitant plutôt les périphéries ou les zones rurales. Ils exercent des métiers peu qualifiés et n'ont pas été formés pour s'adapter au marché de l'emploi. Leur survie dépend d'écosystèmes locaux et souvent de solidarité familiale auxquelles ils sont liés. Pour eux, ce monde mouvant dirigé par les anywhere est un univers inquiétant. Pour les gens de n'importe où, être quelque part, c'est refuser l'ouverture, c'est nier la réalisation de la globalisation. En plus de cette différence d'adaptation au mouvement qui scinde la société en deux groupes, l'économie, elle aussi, est touchée. Elle est en quelque sorte réduite à un art de la destruction des produits. Produits devenus d'abord nécessaires par la grâce de la publicité et du marketing, et dont les concepteurs ont eux-mêmes programmé l'obsolescence pour favoriser leur perpétuel remplacement. En fait, le progrès technologique nous appauvrit. Réfléchissons un instant au lien que nous avons aux choses, à ma souris, à l'ordinateur. Tout ce que nous possédons déjà est inéluctablement dépassé et dévalué par ce qui est encore à venir. Les objets que vous avez dans vos sacs, messieurs, dames, n'ont bientôt plus de valeur. Vous aurez beau mettre votre iPhone dernier cri dans votre coffre-fort, en quelques mois, il n'aura plus beaucoup de valeur. Cette dévaluation inéluctable est l'effet du progrès technique. Celui-ci fait fondre la valeur des objets que nous avons. Le progrès entraîne la dépréciation de ce qui existe déjà, de ce qui est là, dans nos mains, sous nos yeux. En écho à ce que dit Bellamy, une citation de Hannah Arendt, et c'est un texte qui date de 1954 que vous avez aussi sur votre polycopier, le numéro 3. La société de masse est encore plus sérieuse, non en raison des masses elles-mêmes, mais parce que cette société est essentiellement une société de consommateurs, où le temps du loisir ne sert plus à se perfectionner ou à acquérir une meilleure position sociale, mais à consommer de plus en plus, à se divertir de plus en plus. Et voilà son cri d'alarme. Croire qu'une telle société deviendra plus cultivée avec le temps et le travail de l'éducation est, je crois, une erreur fatale. L'attitude de la consommation implique la ruine de tout ce à quoi elle touche. Un petit exemple. Si vous allez sur le site de la Poste française, vous allez découvrir un service spécifique. Mais avant, retour en arrière. Oh, Jacques Tati, jour de fête. C'est l'histoire d'un facteur à bicyclette qui prend son temps et qui, au besoin, lui ou les facteurs de son époque, s'arrêtait chez une personne âgée, faisait une petite conversation, prenait un café, voire autre chose, ou un autre film, Bienvenue chez les Ch'tis, où il faut aller un petit peu plus vite, il est vrai, mais on prend encore le temps de vivre. Mais il a fallu aller de plus en plus vite. En 2010, pour traquer les arrêts indus, on a muni les facteurs d'un GPS impossible à déconnecter. Et en 2017, la Poste déclare vouloir être un acteur essentiel du lien social, je cite, hein, en faisant payer, ah voilà, c'est la bicyclette d'aujourd'hui, la Poste donc fait payer ce qui était un lien essentiel, élémentaire, la conversation. Donc elle propose, eh bien, en payant bien sûr, que le facteur s'arrête chez la personne âgée une fois par semaine, deux fois par semaine, et vous payez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Comme par magie, un élément simple et nécessaire à la vie humaine réapparaît sous forme de marchandise. Une telle révolution du mouvement ne se cantonne pas seulement au domaine social et économique. Elle a mis aussi en crise les beaux-arts. En répudiant l'idéal de beauté qui avait une dimension atemporelle, au profit d'un art qui fait de l'œuvre une performance visant à la nouveauté, à la surprise, en même temps qu'à l'expression immédiate et changeante des préoccupations du temps. Alors que la culture fait référence à une pérennité dépassant le seul cadre de la vie humaine, la modernité favorise la transformation de la culture en bien de consommation forcément éphémère. Mais cette conséquence de la dépréciation des biens est plus profonde. Ce n'est pas qu'une question de valeur marchande, c'est tout notre regard sur le réel qui se trouve altéré et appauvri. Affirmer que le changement, en tant que tel, vaut mieux que la stabilité ne peut que nous conduire à oublier la valeur de ce qui est, de ce qui est déjà présent, de ce qui existe réellement. Parce que croire par principe dans la supériorité de l'avenir, c'est ignorer qu'il y a dans l'héritage de l'histoire, dans la réalité du présent, des biens infinis qui méritent d'être admirés, protégés et aussi transmis. Plus s'accélère le rythme du progrès technique, plus s'accélère avec lui ce délaissement du réel. On peut même parler d'une guerre contre la nature, contre ce qui est. Une autre conséquence, il y en a d'autres, mais c'est celle-ci que je pointe pour finir, la passion du mouvement s'épanouit dans une numérisation du monde qui tend à transformer la diversité des personnes et des situations en des listes de chiffres. Le nombre, c'est le signe de ce qui change, qui peut se transformer en autre chose. On passe d'un chiffre à l'autre facilement. Mais au fond, qu'est-ce qu'exprime cette passion du mouvement? Et Bellamy propose cette expression, l'incapacité à demeurer ici. Le fond du problème, Pascal le dénonçait déjà quand il écrivait. J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Cette passion du mouvement exprime une douloureuse impuissance à habiter le monde, une incapacité à demeurer. Reprenons ce mot de Baudelaire, frère qui trouvait beau tout ce qui vient de loin. Bellamy commente. Trouver beau tout ce qui vient de loin, c'est réciproquement considérer comme dépourvu d'intérêt tout ce qui est proche. C'est ne plus voir le prochain et ne plus estimer celui qui est le plus absolument proche, soi-même. Ce n'est plus habiter sa vie et son corps. Et il continue un peu plus loin. La technologie contemporaine entre en lutte contre le réel parce qu'il est constitué de circonstances qui sont autant de pesanteurs pour nous, pour notre exigence de mobilité. La vie implique pourtant de les assumer. Et si nous préférons les fuir, seule la mort pourrait nous offrir la perspective d'une absence de contrariété. Et voilà le problème. Vivre et habiter ce monde, exister et être un corps, suppose d'accepter un ordre de contraintes, une infinité de renoncements. Se trouver vraiment quelque part, c'est à chaque instant de cette présence renoncer à être ailleurs. Faire vraiment quelque chose, c'est ne pas faire tout le reste. Voilà ce à quoi nous ne voulons plus nous résoudre. Au fond, pour synthétiser cette analyse, se cache l'angoisse de devoir assumer les limites propres à n'importe quelle individualité particulière, à commencer par mes propres limites. Les développements de la technique semblent toujours tendus vers un même objectif, celui de défaire ces contraintes. Toutes ces contraintes qui limitent nos désirs de vitesse ou d'aller partout, de tout connaître, toutes les résistances qui s'interposent entre mes désirs et leur satisfaction. Par exemple, la contrainte de la distance est résolue par la vitesse. Celle de la pesanteur est résolue par l'univers du web. Tout y circule instantanément en un clic. Et on voudrait changer la limite de la mort, celle du sexe. Tout cela, la technique promet de l'abolir. Mais où allons-nous ? Prendre la mesure de la rupture et des déséquilibres suscité par la passion moderne pour le mouvement peut être une occasion précieuse de retrouver des points d'appui qui peuvent orienter nos vies. Parce que le monde que nous habitons n'est pas seulement de la matière. Pour qu'un monde et qu'un espace soient vraiment habitables, il faut que l'esprit s'y mêle. Aussi, plutôt que de regarder tout changement comme un progrès, la conscience humaine a la capacité de chercher et de voir ce qui est bon dans le réel, d'habiter le présent, de s'émerveiller de ce qui est et de préserver ce qu'il y a de meilleur. À la fascination moderne pour le mouvement perpétuel, à la croyance systématique dans le progrès, on ne peut opposer une autre folie, celle de la fixité. Je ne changerai pas. Non. Il s'agit de retrouver un mouvement orienté. Il nous reste à retrouver la sagesse de cette question. Où vas-tu ? Et c'est cette question et la réponse à cette question qui va pouvoir donner un sens à nos mouvements incessants. Les habitations impersonnelles, les voyages, les déménagements, les transports, avec au cœur, où allons-nous ? Et au passage, je ne peux pas m'empêcher de vous signaler ce tableau de Gauguin. D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Des questions trop précieuses que nous ne devons pas oublier. Nous avons la capacité de nous extraire de la mobilité universelle du monde matériel grâce à la conscience. Il s'agit de préserver un mouvement authentique. Pour voir qu'un fleuve bouge, il faut un point fixe pour le comparer. Si tout bouge, si vous nagez dans le fleuve au même rythme que du fleuve, vous ne voyez pas que vous bougez. Donc il faut un pilier, il faut un centre qui nous permette de voir, de constater le mouvement. Et toute cette liste de questions, c'est vraiment les questions de l'intelligence humaine, de la conscience humaine. Quand on nous parlera d'une évolution nécessaire, d'une adaptation évidente, contentons-nous de demander où allons-nous en suivant cette voie ? Quel bien dans l'absolu avons-nous à en retirer? Serons-nous meilleurs, plus justes, plus authentiquement heureux? En nous posant ces questions, nous retrouvons à chaque fois l'effort de la conscience qui nous arrache au déterminisme réel ou supposé. Il s'agit de discerner avant de nous laisser emporter par un changement. Il faut retrouver le sens de l'unique et de l'irremplaçable. Comment se ressaisir, par exemple, dans cet monde de l'habitation? C'est en Chine, à Pékin. Il ne s'agit pas de retrouver une vie sédentaire, mais une vie centrée autour de son axe, une vie ancrée dans un « ici ». La personne humaine a besoin, non pas seulement de s'habiter quelque part, n'importe où, mais nous avons besoin d'habiter, d'avoir un foyer qui réchauffe et qui réunit par les liens qui le nouent au passé, à l'espérance, au présent, aux personnes qui y habitent. Et dans le polycopier, la dernière citation qui est au bas de la page 2, vous avez tout un très beau développement sur habiter. Je vous laisserai le découvrir un petit peu plus tard. Si j'ai mis sur la feuille la citation 6. Oui, habiter un monde, c'est faire l'expérience de la pesanteur des choses, de la résistance de la matière, de la consistance de l'espace. Le proche et le lointain ne sont pas pour moi homogènes, assimilables l'un à l'autre. Les lieux où a grandi ma famille ne sont pas équivalents à n'importe quelle surface égale. Ils sont saturés de souvenirs, d'habitudes et d'images intérieures. Ils ont été peu à peu façonnés, décorés, usés aussi par les répétitions et les petits événements qui ont déposé leurs traces dans la mémoire des murs et des meubles. Ils sont devenus une demeure à nul autre pareil, le « chez-soi » qui devient une sorte de centre du monde. Habiter un monde, c'est être quelque part, c'est-à-dire savoir qu'on ne peut pas être partout. Alors vous allez me dire, mais moi pour mon travail, il faut que je déménage, il faut que j'aille près de l'endroit où je vais travailler. Eh bien, il y a une autre voie royale pour retrouver un axe. C'est, pour s'opposer au monde des chiffres et de la numérisation, le monde des mots. Et surtout, grâce à la littérature. Parce que la littérature ne dit rien d'autre que la rencontre éprouvante de notre vouloir avec ce monde qui nous résiste, avec d'autres libertés et avec nos propres faiblesses. De plus, la littérature nous sauve simplement parce qu'elle pose, sous des formes sans cesse différentes, cette question toujours renouvelée: où vas-tu? La poésie, en particulier, ne fait rien d'autre que de nous dire le réel et en manifester la beauté. Petit exemple, c'est juste les premiers vers d'un poème de Paul Stendhal sur une petite maison. C'est une petite maison tout ordinaire, elle n'est pas un château, mais celle de ma vie. Et après ça continue. Et Bellamy présente cette importance de la littérature. La langue qui décrit le réel n'ajoute rien au réel qu'elle décrit. Dans son usage poétique en particulier, elle ne permet aucune action. Elle réveille seulement notre attention aux réalités présentes. Pour résoudre la crise que nous rencontrons aujourd'hui, nous avons moins besoin d'action que d'attention retrouvée. Non pour arrêter l'action, mais pour lui redonner un sens, en la dirigeant de nouveau vers ce qui mérite que nous y soyons attentifs et en protégeant ce qui exige de nous que nous y fassions attention. Voilà donc quelques clés: le foyer, la demeure, la littérature et, oh, que voyez-vous, c'est Ulysse, les aventures d'Ulysse. En effet, le livre de Bellamy se termine par un chapitre consacré au retour d'Ulysse chez lui. Depuis 20 ans, Ulysse parcourt le monde, mais il veut retrouver sa demeure, les bras de sa femme Pénélope. Il a pourtant traversé des lieux propices pour s'y arrêter. Il a même reçu les avances d'une très belle déesse qui pouvait lui accorder de devenir Dieu. Il a parcouru les mers, les océans, bravé tous les dangers, vécu 1000 aventures, mais toujours il était orienté vers Ithaque. Ulysse ne sait-il pas mieux que tout le monde que le bonheur n'est pas dans le mouvement, dans l'instabilité permanente par laquelle on est obligé de passer, mais dans un lieu fixe en son centre, à l'intérieur de soi, puisqu'il portait le souvenir pendant toutes ses aventures, et à la fin, Ulysse retrouve sa femme Pénélope. Et on découvre, vous savez, à la fin, Pénélope veut tester, parce qu'elle a eu tellement de prétendants qui ont dit « c'est moi Ulysse », qu'elle veut vraiment être sûre qu'elle n'a pas encore reconnu vraiment que c'était Ulysse. Elle lui fait croire que le lit de la chambre nuptiale a changé de place. Et alors, Ulysse explose de colère et de désespoir. Et en fait, c'était la dernière astuce de sa femme Pénélope pour être sûre que c'était vraiment Ulysse. C'est un petit peu comme si, pendant toutes les aventures d'Ulysse, cet arbre dans lequel il a construit le lit et la demeure, c'était l'axe dans lequel il a pu, autour duquel il a pu tourner pendant tant d'années. Il avait quelque chose qui le rattachait à un ici. Et hier, en regardant ma bibliothèque, j'ai découvert un livre, comme ça je fais le lien. C'est un livre de Jacqueline de Romilly, dans le jardin des mots. Nous avons commencé avec les jardins, et voyez, les mots peuvent être aussi un jardin. Ça prend moins de place. Est-ce qu'on fait une petite pause avant de continuer sur qu'est-ce que la culture ? Alors, une première observation pour parler de la culture, c'est l'omniprésence du mot. On oppose ce mot à la violence barbare, mais aussi à la nature brute. On parle de culture au pluriel, de multiculturalisme. Une culture peut se définir selon le point de vue des ethnologues, des littéraires, des historiens, etc. Doit-on se demander qu'est-ce qu'une culture ou qu'est-ce que la culture ? L'emploi de l'article défini une suppose qu'il y en a peut-être plusieurs, ou au moins une, mais plusieurs. Dire là suppose qu'il n'y en a qu'une seule. Le mot culture n'est plus réservé à la culture des élites de la société, mais englobe aussi la culture populaire. On désigne par le mot culture aussi bien des modes de vie, de cuisine, de folklore et même le tag. On parle de la culture d'entreprise, mais aussi de la culture générale. Qu'est-ce que c'est que la culture générale ? On entend par culture générale ce qu'il faut savoir, ce que l'on n'a pas le droit d'ignorer. Ce savoir est à la fois minimal et commun, partagé par tous. Si vous ne le possédez pas, vous êtes menacé d'exclusion du groupe concerné. Il existe même dans le système français une matière scolaire qui porte ce nom. Il y a des concours dans les grandes écoles qui comprennent une épreuve dite de culture générale. Qu'est-ce que la culture ? Et pour y répondre, je vais mettre mes pas dans ceux de Rémi Brague lors d'une conférence de carême à Notre-Dame de Paris en 2017. Le sens du mot culture, première constatation, il s'agit d'un savoir, puisqu'elle peut s'apprendre. Mais ce n'est pas n'importe quel savoir. La possession d'une information, aussi exhaustive et précise soit-elle, dans un domaine particulier, ne suffit pas. Parce que dans ce cas-là, vous êtes un spécialiste, un érudit, mais pas forcément quelqu'un de cultivé au sens général. Si l'homme cultivé n'est pas le spécialiste, est-il celui qui sait beaucoup de choses tout azimut ? Si c'était le cas, il suffirait de se connecter aux encyclopédies virtuelles présentes sur Internet, qui ressemble à une sorte de réservoir de connaissances. Apprendre coïnciderait à la limite avec télécharger. Eh bien non, cet accès au savoir n'a vraisemblablement pas augmenté le nombre de personnes cultivées. Il faut autre chose. Est-ce savoir par cœur ? Oh, celui qui a inspiré ce film Rain Man, un autiste, a une mémoire photographique extraordinaire. Il sait effectivement beaucoup de choses, des choses très exactes et très utiles, mais nous ne pouvons pas vraiment l'appeler cultivé. On peut tirer une information d'un autre film, Les dieux sont tombés sur la tête numéro 2. Dans une scène, le Boshiman, celui qui est avec la jeune blonde, constate que cette jeune juriste super douée, un crack en informatique, est incapable de lire une piste qui pour lui est très claire. Il en conclut avec surprise et apitoiement qu'elle est parfaitement inculte. La culture consiste donc à être capable de s'orienter. Cela peut être lire une piste à partir de traces laissées par les animaux ou les hommes. Cela peut être aussi se repérer dans les codes sociaux, dans les mécanismes de l'économie, etc. Une information n'est donc appelée culture que dans la mesure où elle constitue un code permettant de se reconnaître comme appartenant à un groupe, que ce soit une nation, une famille, un club, et permettant de s'y retrouver dans la masse des informations. On peut comparer cette culture propre à un groupe à un mot de passe qui donne accès à l'appartenance et à la compréhension de ce groupe. Ce fut le cas pour la première incarnation de l'idée de culture, la paideia grecque. Dans les royaumes hellénistiques du Moyen-Orient, elle joua ce rôle. Fréquenter le gymnase et les bains, lire Homère, était signe de reconnaissance pour l'élite militaire et commerciale. Et pour les étrangers, c'était un passeport permettant de grimper l'échelle sociale. Pour un Français longtemps expatrié, l'expérience de ne plus comprendre tout à fait les Français en France est fréquente et un peu douloureuse. Il ne possède pas le dénominateur commun de la culture ambiante, faite de références à des scènes de films, de bons mots d'hommes politiques, de publicités. Il doit par exemple procéder à un véritable décodage des expressions devenues communes pour en comprendre le sens, puis dans un deuxième temps les employer avec justesse. Le culturel porte sur tout ce pourquoi il y a une bonne façon de procéder. Ici, vous avez la charte de conduite à la cantine. Vous avez le code de bonne conduite du cavalier en forêt. Et puis, ici, c'est les bonnes manières dans le train à Tokyo, en vue des Jeux Olympiques du mois d'août prochain. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre deux places au lieu d'une en lisant son manga. Il ne faut pas se maquiller dans le train. Il ne faut pas parler à voix haute pour ne pas gêner les autres. Bref, la culture est essentiellement normative. Elle englobe tous les domaines de l'activité humaine dans lesquels on peut distinguer une bonne manière de procéder d'une mauvaise. Ce qui est considéré comme bon et mauvais vaut pour une culture donnée et pas toujours pour une autre. C'est ce qui permet de distinguer deux cultures. Ce sont justement les différentes réponses qu'elles fournissent à certaines questions fondamentales qui sont pour l'essentiel les mêmes partout. Car ces questions essentielles tiennent à la nature de l'homme. Par exemple, comment communiquer avec les autres? Qui ai-je le droit d'épouser? Comment dois-je éduquer mes enfants et respecter mes parents? Qu'ai-je le droit de manger et comment faut-il le préparer? Qu'est-ce qui mérite d'être admiré, respecté, imité? Oh, j'ai fait une faute, pardonnez-moi. Quelles sont les choses qu'il faut croire, celles qu'il convient d'admirer et celles qu'il faut faire? Les réponses à ces questions varient suivant la culture. C'est pour cela que le champ de la culture est très large. Il va du plus sublime, qui admirer, qui respecter, au plus concret, comment manger, la politesse, etc. Tout un style de vie est en jeu. Car ce qui relève de la culture, c'est pas seulement une connaissance dans ma petite tête abstraite, mais cela m'oblige à modifier mon comportement. Être cultivé, c'est ne pas se permettre n'importe quoi, depuis le niveau de la morale la plus sublime, en passant par l'esthétique et en aboutissant au savoir-vivre, voire à l'hygiène. Un exemple de l'Antiquité, comme ça on est plus détaché. Quand on voulait dire de quelqu'un qu'il était totalement inculte, on disait « il ne sait ni lire, ni nager ». Ben, c'est Platon qui dit ça dans les lois. Ainsi, la culture est ce qui permet l'orientation dans le monde. Et je dis bien l'orientation, pas un simple repérage. Le repérage permet de savoir où nous sommes. L'orientation nous aide à voir où nous allons, pas seulement où nous sommes. Donc c'est quelque chose de dynamique. Et quant à discerner quelle direction nous devons choisir et comment nous devons agir, c'est justement l'aspect, c'est l'affaire de la culture, de nous donner cette réponse. Alors vous comprenez que chaque culture, en fait, introduit une différence dans quelque chose qui est neutre. Le geste de lever la main, en soi, il ne veut rien dire. Mais dans une culture, ce sera faire signe et appeler l'attention. Dans une autre culture, ça voudrait dire « j'en ai marre ». Donc, même en français, même en France, un même geste peut avoir différents sens. Donc la culture introduit du sens dans quelque chose qui, au début, est neutre. C'est ni bien ni mal. C'est la culture qui donne le sens. Et nous allons poser une question. Au début, je vous disais, une culture, la culture, et même il y a une troisième possibilité, les cultures. Tous les systèmes de différence se valent-ils ? C'est la question épineuse de la valeur relative des différentes cultures. L'opinion commune est que c'est une question taboue et qu'il ne faut surtout pas dire qu'une culture est meilleure que l'autre. Sinon, vous allez soulever une vague d'indignation. Mais pour bien comprendre l'enjeu de la question, il faut retourner à l'étymologie du mot « culture ». Le terme latin « cultura » définit l'action de cultiver la terre au sens premier, puis celle de cultiver l'esprit, l'âme. Et c'est Cicéron qui fut le premier à appliquer le mot « cultura » à l'être humain. L'image est explicitement agricole, et en plus il file la métaphore. De même que tous les champs que l'on cultive ne portent pas de moisson, de même, tous les esprits cultivés ne portent pas du fruit. De même qu'un champ, fût-il fertile, ne peut être fructueux sans culture. De même pour un esprit sans instruction. C'est ainsi qu'une des deux choses est faible sans l'autre. Il faut l'instruction. Or, la culture de l'esprit, c'est la philosophie. C'est ce que nous faisons ce matin. C'est elle qui extirpe les vices, prépare les esprits à recevoir les semences et leur envoie, et pour ainsi dire, y plante les choses qui, une fois mûres, pourront y porter de riches moissons. Ainsi, le mot culture a le même sens que dans l'agriculture, la pisciculture, etc. Dans tous ces termes, il s'agit de porter une réalité naturelle à son point d'excellence, lequel point est apprécié par rapport à l'attente de l'homme. Ce qui suppose que ce point n'est pas donné d'emblée, mais qu'il doit s'acquérir. C'est pour cela que la culture ou la pisciculture sont nécessaires. Il en est ainsi parce que l'homme n'est pas achevé quand il naît. C'est pour cela qu'il y a la puériculture. Si vous comparez un poulain qui, quelques minutes après sa naissance, commence à marcher et est très vite à galoper, un petit homme ne peut rien faire et même pas soutenir sa tête. C'est une petite Emma qui est née cette semaine. Quoi qu'il en soit, le fait est que l'homme est ouvert à l'intérieur d'un domaine limité, sa nature humaine, à plusieurs possibilités. Cet enfant est né en France, probablement elle parlera français. Si elle était née en Chine, elle parlerait chinois. Donc, le lieu de notre naissance concourt à nous donner une culture d'un lieu très précis. Donc une fois qu'on est né, ensuite, c'est tout l'entourage qui va solliciter notre attention, qui va nous encourager à faire des progrès, à apprendre à parler, à apprendre des bonnes manières. Donc réaliser mon humanité est une tâche qui est confiée à chacun, d'abord aux parents, à la famille, à l'école, mais c'est une tâche qui appartient vraiment à l'humanité. Donc la culture ne s'oppose pas à la nature, elle n'en prend pas le contre-pied. Elle se développe dans la direction de la nature en sélectionnant ce qu'elle a de mieux. Mais qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Et quand je dis nature, ça veut dire la propriété. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine? La nature du feu, c'est de brûler. La nature d'un arbre, c'est de croître et de porter du fruit. La nature d'un animal, c'est de courir, de se reproduire. La nature de l'homme, qu'est-ce que c'est? La meilleure définition que l'on peut en donner, elle vient d'Aristote, souvent traduit par « animal », mais le terme plus juste serait « être vivant, doué de raison ». Il y a donc deux aspects. En tant que l'homme est un être vivant, sont naturels pour lui les comportements qui respectent le fonctionnement de l'être vivant. Se nourrir, se défendre contre ceux qui menacent, se reproduire, etc. En tant qu'il est rationnel, sont naturels les comportements dans lesquels nous sommes guidés par notre raison, par notre intelligence. Et la raison informe, influence, caractérise toute notre vie. Même notre façon de connaître, on peut dire que l'homme a une connaissance sensible, mais en fait sa connaissance sensible, elle est déjà intelligente. La connaissance sensible d'un animal, elle est que sensible. Si moi je touche quelque chose, déjà mon intelligence est au travail. Donc c'est vraiment toute notre nature humaine qui est animée par la raison, qui est marquée par ce sceau. Nous avons là le critère que nous cherchons. Est meilleure une culture qui respecte mieux les deux dimensions de l'humain. Car il faut les deux, la vie et la raison. Et il faut qu'elles s'accordent entre elles. Et vous voyez qu'il y a donc des cultures qui posent problème. Par exemple, je pense que beaucoup parmi vous sont allés voir une vie cachée. Donc vous avez un cas de conscience d'un chrétien. Et donc ce Franz a en fait en lui différentes cultures. La culture de son pays, la culture de son village et la culture catholique. Et donc ces différentes cultures sont en tension. Hein, le film montre bien ce combat intérieur. Eh bien, la culture nazie contre laquelle il s'oppose met en péril la nature humaine, puisqu'elle ne respecte pas sa liberté. Et donc c'est sa culture catholique qui lui permet de discerner. Voilà. Donc, eh bien, pour lui, en conscience, avec la lumière qu'il avait au moment où il a décidé, eh bien, il a estimé, il a discerné que la culture catholique et sa flamme intérieure, c'était ça qu'il fallait qu'il suive, plutôt que la culture ambiante qui était le oui à cette campagne du nazisme. Pour accepter cette définition que l'homme est un être vivant doué de raison, c'est sûr qu'il faut accueillir cet homme en voyant que c'est quelque chose de bon. Hein, et c'est le regard de la Genèse que nous avons vu tout à l'heure entre cette scène où Adam et Ève se retrouvent. Enfin, c'est le Créateur qui présente Ève à Adam. Ce regard qui voit l'homme comme quelque chose de bon. Voilà. Et donc la culture, ce ne sont pas seulement des objets, mais c'est toujours une liberté humaine qui prend en charge la culture de son pays, la culture de son village, la culture qui est marquée par la religion. J'ai assez parlé, et maintenant nous arrivons à un deuxième mouvement de la matinée, problématisme.